expliquer ce qui vous a séduit dans ce média qu'est la radio.
Séduit n'est peut-être pas le mot, mais je me suis rappelé que la radio pouvait être un excellent outil de vulgarisation. En fait, je me suis rappelé tout simplement un prestigieux aîné qui était le général de Gaulle. C'est-à-dire que quand on veut toucher vite un grand nombre de personnes qui n'ont pas de lien entre elles, eh bien, il faut se faire entendre. Et par conséquent, en lettres, nous avions, comme d'autres disciplines, un problème à résoudre qui était d'une part un nombre important de professeurs, des réformes qui demandent une mise à jour des connaissances régulières et notamment en TIS, et très peu de personnes donc touchées par l'intermédiaire de la formation. Il me fallait trouver quelque chose qui permette d'accroître l'audience de la parole institutionnelle sans pour autant disposer de moyens d'accroître massivement les moyens en formation. Voilà ce qui était le point de réflexion de la création de cet outil.
Alors, dois-je comprendre que vous envisagez le média radio comme un média de formation continue efficace ?
Pas tout à fait non plus. Je crois qu'on ne peut pas dire de la web radio que c'est un outil de formation. C'est un outil de relais, c'est un outil de stimulation qui développe une appétence, qui permet à des professeurs de parler autour de quelque chose qu'ils ont entendu. Après la formation, cela suppose un travail de fond plus marqué. Cela peut être soit par des stages en présentiel, soit par des stages d'établissement, soit par des plateformes qui viennent en complément. Mais en fait, la radio surtout crée une sorte de vulgate des outils et de la culture des lettres aujourd'hui.
Donc en fait, si je veux résumer, l'émission des souris et des lettres, c'est bien une émission qui est faite par des enseignants de lettres, pour des enseignants de lettres, et j'ai cru comprendre que vous souhaitiez impliquer davantage les auditeurs dans les émissions prochaines. Seulement pour pouvoir impliquer davantage les auditeurs, il faut communiquer davantage. Quelles actions concrètement de communication avez-vous à l'esprit pour cette nouvelle année scolaire 2010-2011 ?
Je reviens un tout petit peu sur ce que vous venez de dire et qui est juste, c'est un travail fait par des enseignants de lettres, pour des enseignants de lettres. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose qui est parfaitement en accord avec les prescriptions institutionnelles des programmes, du socle commun, de la réforme des lycées, mais ce n'est pas une voie théorique, une voie qui serait la voie de l'inspection, entre guillemets, c'est quelque chose qui est mis à la portée de la classe par le travail effectif des professeurs. En revanche, pour l'instant, on dirait que c'est un média descendant, dans la mesure où les professeurs qui ont envie de réagir peuvent le faire après l'émission par le biais de mails ou de choses de ce type, mais ils ne peuvent pas émettre des souhaits. Ils ne peuvent pas faire part de questions précises qui leur traversent l'esprit, sur lesquelles ils souhaiteraient des réponses. Donc il me semble que le premier point d'évolution que j'aimerais introduire, c'est d'une part pouvoir collecter des questions de professeurs auxquelles on apporterait réponse pendant l'émission elle-même, et des questions peut-être en lien avec le sujet de l'émission, c'est-à-dire qu'il faut afficher à l'avance le sujet qui va être traité dans l'émission. Puis la deuxième chose, c'est la présence tournante, bien évidemment, pas toujours la même personne, d'un représentant du corps d'inspection pour apporter cette réponse précise, parce que cela, on ne peut pas demander à des professeurs qui partagent avec des professeurs leur réflexion et leur travail dans la classe de l'assumer. C'est-à-dire que la question précise qui donne une réponse à un professeur, je crois qu'il faut que l'inspection puisse l'assumer.
Très bien. Pardonnez-moi, Madame l'inspectrice. Vous avez mentionné la parole institutionnelle. Vous avez mentionné aussi le travail des enseignants qui préparent cette émission. Justement, la question que je me pose, c'est comment peut-on trouver le ton juste entre la simple discussion entre collègues autour de leurs pratiques, autour de leurs usages, et une émission accréditée par l'inspection je dirais, entre en fait le simple échange et les préconisations.
Je crois qu'on peut tenir un équilibre en se fixant sur l'objectif. Hein? L'objectif, ça n'est ni de forcer la main, ni de faire du bourrage de crâne, c'est de prendre acte d'une réalité professionnelle qui est l'arrivée massive du numérique à très court terme dans le système éducatif. Donc les professeurs qui, pour des raisons les plus diverses, ne sont pas à l'aise ou ne sont pas au fait de cet outil, se trouvent malgré eux dans une position en porte-à-faux. Donc si on se place dans une perspective, l'objectif c'est de faire comprendre, d'expliquer les attentes et de faciliter le moyen d'y arriver, il me semble qu'on peut éviter ce côté normatif, prescriptif. Il n'y a pas de raison qu'il soit plus accusé que dans d'autres formes de travail pédagogique.
Alors, la web radio est un outil numérique mis à disposition de tous les enseignants aujourd'hui. On présente souvent quand même les enseignants de lettres sous la forme d'une caricature. Hein. On les présente en général sous des traits peu flatteurs, comme des enseignants très ancrés dans la tradition, parfois aussi très hostiles au monde numérique. La question que je vous pose, Madame l'inspectrice, c'est qu'en est-il réellement? Est-ce que l'enseignement de lettres est réellement hostile au numérique ou est-ce que peut-être c'est une caricature?
Si je faisais un trait de mauvais esprit, je dirais que plus la culture classique s'éloigne, moins ce trait sera accusé. Parce que, en fait, c'est une tradition culturelle qui remonte à l'héritage platonicien, hein, et qui est dans l'inconscient des professeurs de lettres. Et il y a un grand défi face à toute la technique, de manière générale. On fait attention, ce n'est pas l'univers de l'art, de la pensée, de la création au sens plat. Le deuxième aspect, qui est peut-être. Alors, ça, je crois, pardon, je reviens sur ce point, cet aspect-là, je crois que, bon, il s'atténue et que bon nombre de professeurs de lettres classiques, il faut que je corrige mon propos, sont parmi les plus au fait, hein, de cette réflexion et de cet outil. Mais en revanche, il y a aussi un défaut, c'est très étonnant, d'historicité dans la pensée des professeurs de lettres. Je veux dire par là qu'on a une représentation du livre qui coïncide à peu près, ou de l'écrit, avec la mémoire de la Renaissance, de qui remonte à la Renaissance. C'est-à-dire que le livre, c'est le codex. C'est le support papier, broché, relié, marocain, imprimé, etc. Mais on ne remonte pas au-delà, spontanément, la problématique de la culture littéraire, de la lecture et du support. De ce point de vue, le travail que fait l'inspection générale des lettres sur le colloque qu'elle crée cette année à propos des métamorphoses du livre et de la lecture, repris dans un programme de lycée qui ajoute des tablettes d'argile au livre numérique, met le doigt sur quelque chose qui conditionne la crispation de certains enseignants, qui tendent à confondre, je suis prudente, qui tendent à confondre l'œuvre et le support à travers lequel ils en ont pris connaissance. Il me semble que on ne s'est jamais posé la question de savoir sur quoi écrivait Platon, accessoirement. Et on ne se pense pas non plus la question de l'écart, quand on dit Homais, Pascal a beaucoup privilégié tel écrivain, moi aussi, eh bien on ne pense pas que la référence que Pascal avait à l'objet ne pouvait rien avoir de commun avec celle que moi j'ai de la découverte de l'œuvre que nous apprécions tous deux. C'est-à-dire qu'on fige la dimension littéraire. Et cela, il me semble que les professeurs de lettres sont tout à fait capables de le percevoir, à condition qu'on veuille bien accorder à chacun qu'il y a un temps historique et qu'il y a un temps de vie humaine, et que notre sensibilité ordinaire d'hommes et de femmes se crée à travers les supports qui ont marqué notre enfance et notre adolescence. Et il est tout à fait légitime que quelqu'un qui a 40, 50, 60 ans, et peut-être 20, et qui a pris précocement un plaisir intense à la fréquentation du livre papier est une sensibilité qui, sa vie durant, y reste attachée. Cela n'implique pas que les générations futures ne seront pas aussi bien attachées à la même œuvre, mais à travers d'autres supports. On a dépassé un blocage qui fut vraiment nodal et que l'on est dans une phase de mouvement.
Donc c'est une évolution.
Oui.
Et l'enseignant de lettres ne risque pas d'ôter les livres de son cartable au profit simplement d'un ordinateur portable. Les deux peuvent tout à fait cohabiter.
Non, oui, tout à fait, peuvent cohabiter. Et je crois que nous serions tous présomptueux si nous prétendions savoir ce que quelqu'un de mon âge, mais qui serait vous projeté dans X années, si nous affirmions quelle forme aura la bibliothèque privée de quelqu'un de 55 ou 60 ans dans 30 ans. Ça sera peut-être des livres que l'on fabrique soi-même à partir d'un logiciel, que l'on relit, que l'on imprime. Ce sera peut-être des livres numériques. Ça sera peut-être une combinaison des deux. On n'en sait rien. Et il n'y a pas forcément de nécessité de vouloir qu'une chose entraîne la mort de l'autre.
Pour conclure, peut-être, Madame l'inspectrice, pourriez-vous rappeler les dates et l'intitulé précis du BNP organisé
oui.
par l'Inspection générale des lettres ?
Alors, ça s'intitule « Métamorphose du livre et de la lecture à l'heure du numérique » et ce sera le 22, le 23, le 24 novembre à Paris, dans des lieux prestigieux, aussi bien la Bibliothèque nationale que l'École Estienne.
Très bien. Et en ce qui concerne l'émission Des souris et des lettres, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Web Radio Académique d'Orléans-Tours et d'écouter l'émission numéro 4 qui a été enregistrée aujourd'hui en direct des rencontres TIS d'Orléans. Madame l'inspectrice, un grand merci pour cet entretien et pour le
temps. C'est moi qui vous remercie.
Merci.